frères et sœurs bien-aimés, dimanche dernier, pour nous inviter chacun à prier sans nous décourager, le Seigneur nous a présenté le cas du juge et de la veuve. Cette veuve qui, chaque jour, allait demander justice à ce juge qui, ne craignant pas Dieu, ne craignait donc pas davantage les hommes. Et celui-ci a fini par rendre justice à la veuve seulement parce qu'elle lui cassait les pieds. Et le Seigneur de conclure, « Combien plus votre Père, qui est un juge, saura vous rendre justice, priez sans vous décourager. » Toujours animé de ce désir de la prière, le Seigneur nous présente aujourd'hui dans son enseignement deux hommes dont il grossit les traits, le pharisien, le publicain. Pour méditer cette page d'Évangile, il nous faut tout d'abord comprendre ce que les contemporains de notre Seigneur avaient en tête lorsqu'on entendait parler d'un pharisien et d'un publicain. Le pharisien est un juif extrêmement pieux et fidèle à l'Alliance, fidèle à chacune des promesses que le Seigneur a contractées avec le peuple élu, le peuple d'Israël. Tout cela passe par l'observance rigoureuse de la loi de Moïse et avec elle, au fil des siècles, de toute la tradition rabbinique. Ce sont des gens pour qui la foi a la première place dans leur vie et surtout tiennent fermement leur attachement au Dieu unique, ne l'oublions pas, dans un monde qui était alors polythéiste et dont chaque peuple s'échangeait allégrément les dieux. Il y a du bon dans le pharisien. Il jeûne pour sa prière, il fait l'aumône. Et puisque je vous dis que son attachement était viscéral à la loi, quelques exemples qui habitaient son quotidien. Le juif pieux ne peut pas boire une goutte d'eau, une gorgée, sans réciter une prière. Le jour du sabbat, il ne peut faire qu'un certain nombre de pas. S'il en fait davantage, il ne sanctifie pas le jour du Seigneur. Rappelons-nous la parabole du bon samaritain. Le lévite, le prêtre qui passe, ne peut même pas aller porter assistance au samaritain sur le bord du chemin parce qu'il risque, en étant au contact de son sang, d'être dans l'impureté et de ne plus pouvoir rendre le culte à Dieu. Voilà un peu l'état d'esprit du pharisien. Regardons à présent le publicain. Le publicain est un juif considéré comme un pécheur pour de multiples raisons, de telle sorte qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, pécheur et publicain, c'est du pareil au même, c'est synonyme. Le publicain, aurions-nous dit, pendant l'occupation allemande, était un collabo. Déjà, on aime guère en temps de paix les collecteurs d'impôts. Mais alors, le collecteur d'impôts qui travaille pour l'occupant, vous comprenez qu'on ne l'aime encore moins. Les publicains percevaient au nom du Sénat de Rome les impôts pour l'Empire, pouvant prélever jusqu'à 45% de ceux qui collectaient. C'est quand même fort intéressant. Le publicain, en plus de travailler pour l'ennemi, le collaborateur, il est au service de l'occupant, il est au service d'un empereur qui se prend lui-même pour un demi-dieu. Non seulement il travaille pour des païens, des gens impurs, deuxièmement, il va rendre un culte à l'empereur puisqu'il collecte son propre impôt et il travaille pour les forces ennemies. Il y a d'un côté le juif pieux, pharisien, de l'autre côté le pécheur publicain. Et pourtant, le Seigneur Jésus, nous les présentant tous deux, non sans provocation, priant au temple de Jérusalem, va dénoncer l'attitude du cœur. Le pharisien, ou même pourrions-nous dire les pharisiens, se considèrent par leur observance scrupuleuse de la loi et de la tradition rabbinique comme des justes. Ce qui les rend justes, c'est-à-dire ajustés à Dieu, c'est cette observance rigoureuse de la loi. Peu importe qu'on laisse le pauvre Samaritain sur le bord du chemin, le plus important est de rester en communion avec Dieu. Le Seigneur dénonce cette fausse justice, car l'observance de la loi n'est pas seulement là pour se dire « Moi, je suis le seul acteur de mon salut ». Parce que j'aurai observé toutes les observances de la loi de Moïse, que j'aurai ardemment prié, médité les saintes Écritures, je n'ai pas besoin finalement que le Messie tant attendu vienne me sauver, puisque je me sauve moi-même par la loi de Moïse et chacune de ses pratiques. C'est ainsi, précise saint Luc, que la prière du pharisien est pleine de lui-même. Saint Luc le précise, il prie en lui-même, « Je rends grâce, Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je ne suis pas voleur, je ne suis pas menteur, je ne suis pas, etc., etc. Et surtout, je ne suis pas comme le publicain là-bas qui n'ose même pas paraître devant vous. » Plein de lui-même. Voilà que la prière du pharisien est fermée. Fermée à l'ouverture nécessaire de notre âme à la grâce de Dieu. Fermée à la venue de ce Messie qu'il devait pourtant attendre. Fermée également à une prière d'intercession qui ouvre sa prière au monde qui l'entoure. Il aurait pu prier le bon Dieu de porter assistance à ceux qui sont voleurs, à ceux qui sont adultères, ou même à ce publicain pour qu'il se convertisse. Il aurait pu, dans sa prière, emporter avec lui tout l'occupant romain, ces païens qui adoraient plusieurs dieux pour qu'ils puissent être conduits à la vraie foi. Il aurait pu faire de l'apostolat. Il aurait pu aller leur parler de Dieu, de sa loi, de son amour et de sa miséricorde. Mais non. La seule chose qui lui importe, c'est son propre salut à lui, qui réside dans le respect scrupuleux de la loi de Moïse. Alors attention, le Seigneur ne nous dit pas qu'il ne faut pas jeûner. Le Seigneur ne nous dit pas qu'il ne faut pas faire l'aumône, d'autant que la campagne du donné du culte va bientôt commencer. Le Seigneur nous invite à ce que notre cœur, dans notre prière et notre vie chrétienne, demeure un cœur de chair, capable d'aimer, d'être compatissant et qui s'ouvre à la miséricorde de Dieu. Considérons à présent la prière du publicain. Ah, il ne fait pas le malin en arrivant au temple de Jérusalem. Et il y a de quoi, vous l'aurez compris. Mais voilà que, malgré son emploi juteux, malgré son péché public, il se sent tout de même appelé à aller prier et adorer le Seigneur dans son temple. Lui n'est pas plein de lui-même, de quoi pourrait-il être fier? Lui, il n'ose même pas lever la tête vers le ciel, attitude d'humilité. Et que fait-il? Si le pharisien était plein de lui-même, lui ne cesse de frapper sa poitrine. De frapper sa poitrine pour que, comme le dit Ézéchiel dans sa prophétie, le Seigneur rende nos cœurs de pierre semblables à son cœur de chair, un cœur capable d'aimer. Voilà que le publicain, lui, est ouvert à la grâce de Dieu, ouvert à la conversion. Il n'est pas plein de lui-même, il reconnaît qu'il n'est que misère et c'est là, dans cette misère, dans cette faiblesse qui est la nôtre, car nous sommes pécheurs, même si nous ne voulons plus nous confesser, même si nous pensons que le péché appartient au passé, nous sommes un peuple de pécheurs. Et nous avons chacun à courber la tête, par humilité, parce que cette pauvreté est, nous dit saint Paul, notre grande fierté. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que la grâce peut venir en notre âme. C'est ainsi que le Seigneur, dans notre faiblesse, peut manifester sa toute puissance de conversion. Et le Seigneur de conclure, « Qui s'élève sera abaissé, et plus on s'élève, plus la chute sera rude. En revanche, qui s'abaisse sera élevé. Et nous avons alors un modèle éclatant en la personne de la bienheureuse Vierge Marie. Elle dit dans le Magnificat, le Seigneur a posé les yeux sur l'humilité, c'est-à-dire la pauvreté, de sa servante. Si la bienheureuse Vierge Marie a été choisie entre toutes les femmes, c'est en raison de cette humilité, de cette disposition à la venue de la grâce, à cette disposition en son âme de la venue du Messie. Elle est déjà la mère de l'Église et prie en son âme pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la venue du Dieu d'Israël parmi nous, l'Emmanuel, ce Fils qu'elle va mettre au monde, notre Sauveur. Et pourtant, la bienheureuse Vierge Marie, pétrie par cette humilité, pourra dire « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Il n'y a pas en elle le masque de la fausse humilité. Oui, le Seigneur nous invite, à l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie, à l'humilité, à cette pauvreté de cœur. C'est cela la bonne terre dans laquelle le semeur sorti pour semer peut véritablement faire advenir en nos crèches intérieures la bonne nouvelle du salut. Puisse donc le Seigneur avoir pitié de nous, de notre orgueil bien passager et éphémère, et nous prendre chacun en pitié, ainsi soit-il.